Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Une nouvelle étape importante dans la campagne de vaccination en France, malgré quelques retards dans l'approvisionnement des doses de vaccins. AstraZeneca, le troisième vaccin autorisé en France. Premières injections ce week-end, aujourd'hui à Versailles. Reportage dans un instant au centre hospitalier André Mignot. La décrue en Nouvelle-Aquitaine se poursuit, sauf en Charente et en Charente-Maritime, où les eaux continuent de monter, à Gond, près de Saintes. Les habitants font ce qu'ils peuvent pour empêcher l'eau d'entrer dans leur salon. D'autres sont évacués, comme Céline.
On espérait rester plus longtemps dans la maison.
Il n'y a pas une onde.
Mais on voit que l'eau, elle monte et on s'est fait une raison.
Marc Pulvar, une figure du syndicalisme martiniquais, mort en 2008, accusé d'être un prédateur sexuel par trois femmes de sa famille. Des révélations qui ont provoqué un choc en Martinique. À l'étranger, en Birmanie, la colère s'étend après le putsch. Deuxième journée consécutive de manifestations dans le pays. Le pape François exprime sa profonde inquiétude face à la situation en Birmanie. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport. Et bien sûr, au MPSG, en Ligue 1 de football, match annoncé comme un classique sur un volcan. Du rugby également, avec le très bon départ des Bleus dans le tournoi Destination, mais également du tennis. Et la finale du Super Bowl aux États-Unis, événement toujours grandiose. Notre coup d'œil sur l'agenda, avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. La météo pour demain, froid, humidité, verglas pour ce qui est des températures. L'hiver revient, Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 8 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre l'écriture chinoise et japonaise. Merci de me répondre.
À 19h30 dans les petits bateaux.
France Inter.
Malgré quelques à-coups et des livraisons au compte-gouttes des doses de vaccins dans certaines communes, la campagne de vaccination se poursuit. Un troisième vaccin, AstraZeneca, est disponible depuis hier en France. Les premières injections de ce vaccin, d'abord réservées au personnel soignant, ont eu lieu hier et continue aujourd'hui. C'est une nouvelle étape importante dans la campagne de vaccination en France, même si les autorités sanitaires peinent à tenir le rythme de vaccination. Exemple à Versailles, au centre hospitalier André Mignot. Reportage Sandrine Etoua avec Eric Audra.
Tous les créneaux de rendez-vous ont été réservés en quelques heures, notamment par Déborah, infirmière en médecine du travail. Elle vient de recevoir sa première injection du vaccin AstraZeneca, une protection nécessaire, dit-elle.
Parce que je reçois du public toute la journée, je reçois une vingtaine de personnes en face à face à moins de 2 mètres, donc je suis exposée au Covid. C'est ouvert au moins de 65 ans, donc du coup ça a permis qu'on ait accès au vaccin plus rapidement que d'attendre que au fur et à mesure l'âge diminue pour pouvoir enfin accéder au vaccin.
Et avec ce nouveau vaccin, le rythme va s'accélérer. Selon Pascal Bellon, le directeur du centre hospitalier de Versailles, 2300 doses ont été livrées ce week-end, le double les jours prochains.
C'est beaucoup plus simple puisque les vaccins AstraZeneca sont conservés dans un frigo à 3 degrés, presque comme à la maison. Et donc ça permet évidemment des flux logistiques beaucoup plus faciles, contrairement aux autres vaccins actuellement administrés qui nécessitent des congélateurs avec des normes bien particulières.
Voilà pourquoi les médecins de ville seront bientôt en première ligne pour vacciner, dès que les quantités livrées le permettront. Frédéric Prudhomme est le président du Conseil de l'Ordre des médecins des Yvelines.
Ça prend 2 minutes de plus au cours d'une consultation de vacciner un patient. La grande différence, c'est que les médecins connaissent bien leurs patients. Et donc l'interrogatoire, ils l'ont déjà dans leur tête et dans leur dossier médical. Donc là, ils vont gagner du temps. Et il n'y aura plus qu'à vérifier les contre-indications et ils pourront vacciner de façon très importante.
Et il faudra attendre le mois de mars pour que le vaccin AstraZeneca soit disponible dans les pharmacies.
Sandrine Etoua avec Eric Audra. Et face au retard d'approvisionnement, plusieurs médecins notamment réclament la suppression des brevets des vaccins contre le coronavirus. Pour pouvoir vacciner plus rapidement, il faut faire sauter les blocages. Clémentine Autain, députée La France Insoumise, était l'invitée à la mi-journée de questions politiques sur France Inter.
Il y a une certaine soumission organisée depuis très longtemps à l'égard des grands groupes. Voilà. Les chaînes de production, on n'est pas capable de les mettre en place. Les brevets, on n'est pas capable de les avoir très rapidement. Je ne crois pas simplement que la France doit négocier seule. Moi, je ne suis pas dans l'idée que la bonne idée géniale, c'est toujours le repli du simple protectionnisme dans le cadre national. Mais ce que je pense, c'est que la façon dont on est organisé à l'échelle européenne nous pose problème. On ne sait pas faire avancer les choses correctement en termes de licence pour pouvoir aussi organiser les chaînes de production, utiliser Sanofi et dire voilà, demain on réquisitionne et vous faites.
Clémentine Autain avec Ali Badou dans Questions politiques. Des révélations qui ont provoqué un choc en Martinique. Marc Pulvar, une figure du syndicalisme martiniquais décédé en 2008, est accusé par trois femmes de sa famille d'avoir été un pédocriminel dans une tribune. Les trois femmes expliquent que leur oncle s'est livré sur elles à des actes de pédophilie. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Marc Pulvar, le père d'Audrey Pulvar, était, disent-elles, un prédateur sexuel.
C'était l'oncle de la famille favori, adulé déjà par tous, écrivent les trois femmes à propos de Marc Pulvar, une confiance totale qui dure encore de manière posthume et que nous avons décidé de briser une fois pour toutes, ajoute-t-elle. Parmi ces femmes, Karine Mousseau, conseillère territoriale, présidente du comité du tourisme martiniquais, elle a en fait levé une partie du voile déjà le 21 janvier dernier chez nos confrères de Martinique Première.
À l'âge de 7 ans, j'ai été victime d'actes pédophiles, comme beaucoup, beaucoup d'enfants en Martinique. Ce sont souvent des personnes qui sont très proches des familles et dont on se méfie peu, et souvent des personnes qui sont admirées par les autres à l'extérieur.
Deux semaines et demie plus tard, elle livre avec ses deux cousines le nom de celui qu'elles ne veulent plus voir présenté comme un héros, comme un défenseur des opprimés, mais comme un prédateur sexuel. Marc Pulvar, professeur de mathématiques, créateur de la centrale syndicale des travailleurs martiniquais, cofondateur aussi de ce qui deviendra le mouvement indépendantiste martiniquais. Karine Mousseau se libère courageusement d'un poids. Salut Fabienne Sainte-Rose, la présidente de l'association 1001 une victime d'inceste.
C'est compliqué d'être agressé par quelqu'un qui est soutenu quand même par une bonne majorité de l'île, ça il faut le dire. Ça fait 7 ans effectivement qu'elle est aussi membre de l'AMVI. Elle a participé à plusieurs émissions avec nous, mais sans pouvoir donner le nom de son agresseur. Donc c'est vous dire, ça lui a pris 7 ans pour pouvoir sortir, cracher, comme elle dit, le nom du porc.
Je les soutiens pleinement et j'admire leur courage, indique Audrey Pulvar aujourd'hui dans un communiqué. Elle dit avoir vécu un choc profond quand ses cousines ont parlé il y a une vingtaine d'années.
Béatrice Duguay, merci. La décrue en Nouvelle-Aquitaine est amorcée. Ce soir, la vigilance orange inondation a été levée dans les Landes. En revanche, le niveau de l'eau est toujours très préoccupant en Charente et en Charente-Maritime. À Sainte, le pic de crue est attendu demain lundi. Dans la ville, 2000 habitations sont menacées et les habitants font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'eau d'entrer dans les maisons. Reportage au Gon, près de Sainte, Perrine Roguet.
L'eau n'est pas encore dans le salon de Céline et Robert, mais le jardin est déjà en partie inondé. Le couple d'octogénaires a fini par accepter d'être pris en charge par les pompiers.
C'est la première fois que ça nous arrive, on est un petit peu perdu, complètement même perdu.
Ah, c'est votre femme, ça, oui. Tenez madame.
On espérait rester plus longtemps dans la maison.
Il n'y a pas inondé.
Mais on voit que l'eau, elle monte et on s'est fait une raison.
Ça y est, leurs valises sont sorties, les meubles mis en hauteur avec des parpaings. Céline peut enfin partir.
C'est moi qui vais m'occuper de vous, madame.
Oui.
Je vais vous porter, d'accord?
Oh, ça va être bien, alors.
Vous êtes bien?
Et dehors, des voisins viennent la rassurer.
Ça va aller, va.
Oui, oui.
On en a vécu d'autres, hein. Ça va redescendre, Céline. Ça va redescendre.
Juste à côté, à Sainte, plus de 150 personnes ont été évacuées et les habitants sont reconnaissants envers les pompiers, comme Alessio, venu apporter un dessin à la caserne.
Parce qu'ils sont venus aider, mon papy m'a mis à cause des inondations.
C'est gentil, ça.
C'était pour vous remercier de votre boulot et de votre courage surtout.
Eh bien, on va l'afficher et puis tout le monde le verra.
En plus des pompiers, de nombreux bénévoles sont venus prêter main forte pour gérer la crise. Une aide précieuse selon les élus.
Perrine Roguet, France Bleu, La Rochelle. Une ZAD, une zone à défendre, vient de se créer dans le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise. Une dizaine de personnes se sont installées la nuit dernière sur place et depuis cet après-midi, une quarantaine de militants occupent les lieux. Cette ZAD s'oppose au projet de gare du Grand Paris pour empêcher une bétonisation inutile de cette zone de 110 hectares de terres agricoles. La colère et la contestation s'étendent en Birmanie. Pour la deuxième journée consécutive, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le coup d'État, pour la démocratie et pour la libération de la dirigeante Aung San Suu Kyi. À Rangoon, la plus grande ville du pays, 100 000 personnes se sont rassemblées selon diverses estimations. Des rassemblements et des foules très importantes dans plusieurs villes, y compris à Naypyidaw, la capitale construite par par la junte militaire. À Rome, le pape François, qui s'était rendu en Birmanie il y a 4 ans, a exprimé aujourd'hui sa solidarité avec le peuple birman.
In questi giorni seguo con viva preoccupazione.
Ces jours-ci, je suis avec une vive préoccupation les développements de la situation qui s'est créée en Birmanie, pays que je porte dans mon cœur avec tant d'affection depuis ma visite apostolique en 2017. En ce moment si délicat, je désire assurer de nouveau ma proximité spirituelle, ma prière et ma solidarité avec le peuple de Birmanie. Et je prie pour que ceux qui ont des responsabilités dans le pays se mettent sincèrement à disposition pour servir le bien commun, promouvant la justice sociale et la stabilité nationale en vue d'une harmonieuse cohabitation démocratique.
Le pape François, propos recueillis et traduits par Xavier Sartre. Le navire de secours, le Ocean Viking, bientôt en sécurité. Face aux conditions météo qui se dégradent en Méditerranée, le bateau avec 422 migrants à bord va pouvoir accoster dans le port sicilien d'Augusta. Les autorités italiennes ont donné leur accord après un appel au secours lancé par le navire. Les 422 migrants à bord, dont des bébés et des enfants, seront pris en charge. 8 passagers testés positifs au coronavirus seront placés à l'isolement. François Thomas, président de l'association SOS Méditerranée, propriétaire de l'océan, de l'Ocean Viking.
C'est un soulagement parce que ils ont vécu l'enfer libyen et puis chaque heure d'attente est une souffrance supplémentaire. Il y a des personnes qui sont blessées, il y a une personne qui a été battue il y a une semaine en Libye et qui a été gravement blessée à la tête, qui a une plaie qui s'est infectée. Il est temps que ces personnes soient débarquées, certaines soient prises en charge par des structures hospitalières, parce que malgré l'équipe médicale très compétente et les moyens que nous avons à bord, ça ne pouvait pas durer. D'ailleurs, nous avons sauvé 424 personnes. Il y en a 2 qui ont été débarquées déjà par hélicoptère, une femme enceinte, elle a été accompagnée par son conjoint et elle a été débarquée par hélicoptère par les autorités maltaises. Et il était vraiment urgent que, devant des conditions météorologiques qui se dégradaient, la pluie, le vent, et donc il appartenait aux États responsables, de nous assigner un lieu sûr de débarquement le plus rapidement possible.
François Thomas, président de l'association SOS Méditerranée. Stupeur ce matin en regardant le ciel breton. Certains habitants du Finistère ont cru voir passer des ovnis, des petites lignes de points lumineux parfaitement alignés. Il s'agissait en réalité de satellites de communication de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk et le ciel breton était suffisamment dégagé pour apercevoir cette constellation de satellites. Les précisions de Christiane Piton, présidente de l'association d'astronomie Loire-Galne en Cornouailles.
C'est une constellation de satellites de télécommunications dont le but est d'améliorer l'accès à l'Internet pour les zones blanches. C'est très surprenant, ça fait quelques années, c'est vraiment depuis 2019 qu'on a commencé à en voir de plus en plus et on en verra de plus en plus parce que leur but est d'en mettre quand même plusieurs milliers, jusqu'à 12 000 satellites. C'est gênant parce que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt en tant qu'astronome amateur. Par contre, ce sont les grands télescopes qui observent le ciel profond, qui ont besoin et qui font de la photo, ils sont gênés parce que c'est des objets qui sont obligés d'effacer de leurs photos. Pour eux, c'est gênant.
Christiane Piton avec Roméo von Maastricht de France Bleu Brésisel. (Rire) 19h14, vous écoutez France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Frédéric.
Et c'est l'un des moments les plus attendus de la saison en Ligue 1. Marseille face au Paris Saint-Germain, c'est dans moins de 2 heures.
Et dans un contexte particulier à Marseille où l'ambiance est volcanique depuis plusieurs semaines, au PSG aussi, où le lustre d'antan est un peu passé. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Jérôme.
Vous êtes près du stade Vélodrome. Alors le couvre-feu, bien sûr, a démarré. Pourtant, il y a une grosse présence policière autour de vous.
Oui, Jérôme, et pas de supporters, puisque c'est quand même eux qu'on attend ce soir, ou plutôt qu'on craint. Il y a quelques badauds qui s'arrêtent vraiment interloqués de voir autant de policiers, qu'ils soient à cheval devant les fourgons de police. Il y a aussi un camion anti-émeute, notamment avec ces lanceurs d'eau assez impressionnants. Près de 400 policiers au total mobilisés ce soir. C'est autant de policiers que si le match de ce soir recevait du public. Alors effectivement, je vous le disais, c'est vraiment calme. On est vraiment loin du climat insurrectionnel d'il y a 8 jours lors de l'attaque du centre d'entraînement de l'OM. Hier, des joueurs et des leaders de groupes de supporters se sont rencontrés pour essayer de calmer la situation. Mais il y a aussi des banderoles qui sont toujours bien présentes aux entrées de la ville qui demandent la démission du président de l'OM, Jacques-Henri Hérault.
Alors voilà pour le contexte. Évoquons maintenant, Alexandre, le match. On parle beaucoup de Marseille en panne de résultats, mais le PSG n'est pas non plus flamboyant en ce moment.
Non, c'est vrai que Paris, n'a perdu qu'un match depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, mais a encore besoin de se rassurer. Paris aussi sous pression puisque Lille vient de gagner et a repris la tête du championnat. Lyon a également gagné hier soir. Paris doit gagner tout à l'heure pour rester au contact du leader à 3 points des Lillois et garder cette 3e place du championnat tout proche des 2 premiers. Puis surtout, Jérôme, parce qu'on est à 9 jours maintenant du rendez-vous de la saison du Paris Saint-Germain, du finaliste de la Ligue des Champions, de la dernière Ligue des Champion. C'est ce 8e de finale aller à Barcelone qui aura lieu donc le 16 février. Et Paris n'a plus que 3 matchs pour préparer ce grand rendez-vous. Et parmi ces 3 matchs qui arrivent, ce déplacement ce soir à Marseille est de loin le match et l'adversité la plus importante qui pourra permettre aux Parisiens de se jauger, qui joueront sans leur gardien titulaire et star Keylor Navas. Et il y a aussi cette incertitude autour de Neymar qui était malade hier mais qui devrait bien jouer ce soir.
Merci Alexandre Vaud depuis Marseille au classement. Monaco est revenu à hauteur des Parisiens après sa victoire à Nîmes 4-3 et vous l'avez dit, le PSG désormais à 6 points de Lille, de nouveau leader après son succès 2-0 à Nantes à l'instant.
Et on va s'intéresser maintenant, Jérôme, au côté polémique, au soubresaut autour de la rencontre. Depuis 8 jours, le football à Marseille est en ébullition. Violence des supporters, départ de l'entraîneur Villas-Boas, rumeurs de vente. L'OM est plus que jamais en crise dans un contexte hystérique à moins de 2 heures du coup d'envoi. Et une défaite de l'OM ce soir à domicile rendrait les choses encore plus compliquées alors que la température est encore montée d'un cran ces derniers jours au sein du club. Reportage à Marseille, Guillaume Batin, c'est le long format de ce soir.
Toute la colère des supporters se concentre sur un seul homme, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, arrivé il y a un peu plus de 4 ans. Hervé Berkane est supporter de l'OM et il intervient dans plusieurs forums et web télé locales comme le Football Club de Marseille.
Beaucoup ont voulu faire passer cette crise malheureusement qu'il y a eu à la commanderie pour les résultats sportifs, mais c'est plutôt les résultats d'une posture d'un homme qui a humilié quelque part des Marseillais, des Marseillaises. C'est pas le fait qu'il soit parisien ou pas, puisque Bernard Tapie, qui est une idole ici à Marseille, est parisien. C'est une histoire de posture, je pense, de mépris, de dédain, de donneur de leçons, de dire que avant lui, tous les présidents étaient des tocards et c'était que de la magouille. Et je crois aussi peut-être que la Légion d'honneur qui lui a été donnée lui a un peu monté la tête, mais moi je dirais plutôt que c'est une Légion d'horreur qui est en train de se passer là.
Cette colère contre les dirigeants de l'OM, cela ne date pas d'hier. Même les rappeurs marseillais en parlent dans leur chanson dès 2016 contre Vincent Labrune avec Mika alias le Mudge Knight.
Vincent Labrune, héros des putains. On a plus d'argent si tu les écoutes, le budget c'est Calcutta. Que tu veuilles ou pas, on continue d'aller au stade. Les dirigeants et les joueurs passent, on ne calcule pas.
À l'époque c'était Labrune et finalement on pensait que c'était le pire président de l'histoire. Et l'histoire nous montre qu'on peut avoir pire en fait.
Et qu'est-ce que vous attendez d'un président? Vous attendez un Bernard Tapie bis?
Non, on n'attend pas après que Tapie, mais on attend après un président qui nous fasse gagner des titres déjà de une. Hein, parce que le sportif c'est l'essentiel, je pense, dans un club. Toute cette farce, l'OM expérience, la fan expérience, tout ça, ça ne nous concerne pas. Il y a cet abcès qui gonfle de mois en mois avec le contexte aussi du Covid, des gens qui en ont marre, il y a un couvre-feu, les gens ils sont enfermés, ils sont supporters, ils vivent pour le club, les résultats ils sont pas là, j'ai un président qui fait des déclarations qui peuvent choquer. Tout ça, comme on dit, il n'y a pas de fumée, de fumigène sans feu. Quoi.
Pour éteindre l'incendie, Samia Ghali, l'adjointe au maire, a rencontré cette semaine les 6 principales associations de supporters pour appeler à l'apaisement. Mais le message risque bien de ne pas être entendu si Marseille est humilié ce soir à domicile face au PSG, son ennemi juré.
Il n'y a pas de fumigène sans feu, Guillaume Batin, à Marseille. En rugby, le tournoi des 6 nations et les Bleus qui ont idéalement démarré leur campagne hier en Italie.
La Dolce Vita pour cette équipe de France qui s'est imposée 50-10 à Rome et qui retrouvera dans une semaine l'Irlande. L'Irlande qui a vécu une entrée en matière plus délicate. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Jérôme.
Les joueurs au trèfle viennent d'être battus au Pays de Galles.
Oui, avec notamment un début de match très compliqué. Hein, le troisième ligne, Peter O'Mahony, écope d'un carton rouge pour une brutalité. Dès la 14e minute, il sera suspendu pour le match face aux Bleus. Puis ce fut au tour du deuxième ligne, James Ryan, l'un de ses joueurs majeurs de cette équipe d'Irlande, qui sort sur blessure. Les Irlandais vont prendre l'avantage avant la pause, mais ils vont finir par céder en deuxième période en encaissant deux essais gallois. Et pour ajouter aux déboires irlandais, le demi d'ouverture et buteur Johnny Sexton a quitté le terrain sur protocole commotion. Pas sûr qu'il puisse tenir sa place dimanche prochain. Les Irlandais sortent donc meurtris et frustrés de ce match très engagé. Et dans une semaine face aux Bleus, une victoire leur sera impérative pour conserver une chance de remporter ce tournoi.
Et donc l'Irlande a battu 21-16 au Pays de Galles face à la France. Ce sera dimanche prochain à 16h. L'actualité immédiate, ça se passe aux États-Unis. Nous irons dans un instant, mais aussi en Australie.
Avec le début du premier tournoi du Grand Chelem de tennis de l'année, sous bulle sanitaire, mais avec du public dans les tribunes à Melbourne.
Et oui, des images auxquelles on n'est plus habitué, de 25 à 30 000 spectateurs chaque jour pour voir les meilleurs joueurs de la planète, à l'exception de Roger Federer. Chez les femmes, tout le monde est là, dont Serena Williams en quête d'un 24e titre du Grand Chelem qui lui échappe depuis 4 ans, Fabrice Abgral.
Serena Williams est la figure iconique et emblématique du tennis féminin. Mais est-elle la plus grande championne de l'histoire? Beaucoup le pensent, mais pour les sceptiques ou les grincheux, il lui manque encore une ligne à son palmarès. Celle qui lui permettrait d'atteindre les 24 titres du Grand Chelem et d'égaler le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court depuis 1973. Pour l'heure, Serena Williams en compte 23, dont 7 en Australie. Le dernier, c'était précisément à Melbourne en 2017. Depuis, plus rien. Ça fait 3 ans que Serena Williams n'y arrive plus. Elle a pourtant disputé 4 finales, dont 2 chez elle à l'US Open, mais à chaque fois, elle a craqué, comme si psychologiquement, elle faisait un blocage montrant systématiquement des signes de fébrilité. Aujourd'hui, Serena Williams relativise comme si elle souhaitait évacuer la pression qui trop souvent la paralyse.
C'est juste que c'est définitivement sur mes épaules et dans mon esprit, et je pense que c'est bon que je garde ça en tête. Mais c'est aujourd'hui un fardeau différent sur mes épaules. Je suis habituée à ça maintenant, et c'est beaucoup plus relax.
Serena Williams fêtera en septembre prochain ses 40 ans. Elle se sent encore capable d'égaler, voire de battre le record de Margaret Court, mais aujourd'hui le temps presse. C'est peut-être même l'année ou jamais.
Et 9 Français seront en lice dès la nuit prochaine sur les courts de Melbourne. Jérémy Chardy aura la tâche la plus ardue en défiant le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 13 confrontations. Chardy n'a jamais battu le Serbe.
Jouer contre le meilleur joueur du monde au premier tour, c'est pas le tirage idéal. Mais bon, j'ai pas le choix maintenant. Je joue contre lui, donc j'essaierai de faire mon maximum. J'ai déjà perdu beaucoup de fois contre lui. J'ai jamais gagné le moindre set, donc on va déjà essayer de gagner le premier set, et puis c'est pas le tirage que je souhaitais.
Et on peut comprendre, hein, Djokovic a remporté 7 des 10 derniers Open d'Australie.
Comme promis, Jérôme, direction les États-Unis et la ville de Tampa Bay en Floride, épicentre du sport américain pour une nuit.
Oui, pour la finale du Super Bowl où les Buccaneers peuvent décrocher à domicile un titre très convoité face aux Chiefs de Kansas City. Un duel aussi entre 2 quarterbacks, Tom Brady du côté de Tampa Bay, hein, Brady la légende, et Patrick Mahomes à Kansas City. Le club peut entrer dans l'histoire en réalisant un doublé inédit depuis 2004. En Floride, on retrouve Loïc Piala.
Pour Tony Romo, l'ancien quarterback de Dallas devenu consultant à la télévision, ce duel entre Tom Brady et Patrick Mahomes, c'est comme si Michael Jordan affrontait LeBron James en finale NBA. La comparaison a fait débat. Brady a déjà sa place à la table des légendes. À 25 ans, Mahomes devra patienter encore un peu. Mais s'il y a un joueur pour prendre le témoin, c'est bien le Texan, ça personne n'en doute. En cas de victoire cette nuit, Kansas City deviendrait la 8e franchise de l'histoire à réussir le doublé. Une performance difficile avec 32 équipes au budget comparable en début de saison. Les Chiefs n'ont pas attendu un éventuel doublé pour montrer leur confiance à celui qui leur a offert leur premier Super Bowl en un demi-siècle. Mahomes, élu meilleur joueur de la Ligue dès sa 2e saison, a signé l'été dernier un contrat record de 500 millions de dollars sur 10 ans. Il aura alors 35 ans et à cet âge-là, Brady a montré qu'on pouvait continuer à gagner. À Tampa, Loïc Piala pour France Inter.
Et verdict sur cet éventuel doublé dans la nuit à partir de minuit.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec demain, lundi. Eh bien, on continue sur le sport et on commence la semaine avec un rendez-vous majeur en ski, Touchous sur les mondiaux. À tout juste un an des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, le Gotha du ski alpin mondial a rendez-vous à Cortina d'Ampezzo en Italie avec pour objectif des médailles ou des titres pour les Français Alexis Pinturault, Clément Noël ou Tessa Worley. La semaine prochaine, en politique, entre crise sanitaire et climat, deux rendez-vous à noter. Mardi, les députés doivent adopter définitivement le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. 3 mois et demi supplémentaires face à l'épidémie de coronavirus jusqu'au 1er juin. Et mercredi, une loi qui tombe à pic pour le gouvernement après la condamnation de l'État pour inaction climatique. La loi climat arrive en Conseil des ministres, un projet de loi issu du travail des 150 membres de la Convention citoyenne, et l'objectif et de réduire les gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Et le compte n'y est pas tout à fait, Célia Kiré.
Le titre est ambitieux. Cette loi doit permettre de lutter contre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ses effets. Elle comporte une 60aine d'articles avec des mesures assez symboliques comme l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles ou la création d'un éco-score pour que les consommateurs connaissent l'impact de leurs produits. Mais finalement, ce projet de loi ne reprend qu'une 40aine de propositions des citoyens et certaines sont décalées dans le temps. Exemple, les logements mal isolés. Les propriétaires ne pourront plus les louer à partir de 2028 s'ils ne les rénovent pas. Dans les transports, seules quelques lignes d'avion, moins de 10, devront s'arrêter si un trajet en train est possible à la place en moins de 2h30. Pour certains citoyens déçus, comme d'ailleurs pour le Conseil économique, social et environnemental, le verre est à moitié vide. Ces mesures ne suffiront pas pour réduire les émissions de 40% en 10 ans, mais elles permettront de faire la moitié du chemin.
Mercredi également, Marine Le Pen et Gilbert Collard au tribunal à Nanterre pour diffusion de photos d'exactions commises par le groupe État islamique sur leur compte Twitter. Et puis, plus souriant, nous connaîtrons également les films de l'année 2020 avec les nominations au César, c'est mercredi également. Autre rendez-vous culturel important de la semaine, les Victoires de la musique vendredi prochain, avec une cérémonie sans public à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Et puis les temps forts de l'actualité la semaine prochaine seront sur votre radio, sur France Inter, avec demain un invité prestigieux dans Boomerang, Barack Obama, interviewé par Augustin Trapenard. Sa seule interview sera donc sur France Inter, à l'occasion du premier volume de ses mémoires, Une Terre Promise, un succès sans précédent pour un livre écrit par un homme politique, près de 300 000 exemplaires vendus à ce jour. Yannick Le Ribble, responsable du rayon sciences humaines à la librairie Le Divan à Paris, avec Ilana Moriousef.
Le succès de ce livre tient, à mon avis, à trois paramètres. Le premier, c'est la personnalité de Barack Obama, qui bénéficie quand même d'une sympathie large et importante. Il faut aussi se rappeler du contexte, et ça, c'est le deuxième paramètre. C'est quand même un livre qui est sorti en pleine campagne électorale américaine. Barack Obama est apparu un petit peu comme un contre-modèle de Donald Trump, et nous étions évidemment nombreux à piaffer d'impatience que la présidence Trump se termine. Donc, il y a l'effet miroir aussi qui a joué. Et le troisième paramètre, c'est aussi les qualités du livre, qui évidemment revient sur une expérience politique, mais aussi un livre qui fait la part belle à, je dirais, un récit introspectif où Barack Obama montre à quel point il a tiré des leçons à la fois sur le plan politique de son expérience, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan humain.
Barack Obama dans Boomerang, demain lundi à 9h10. L'autre temps fort sur France Inter, ce sera jeudi, une journée spéciale, avoir 20 ans en 2021 et un 13-14, notamment en direct d'Amiens autour de Bruno Duvic. Et on terminera la semaine, dimanche, avec la Saint-Valentin. Au générique de cette édition, Guillaume Roux et Louis Audebert en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté d'Anna Péon et Sébastien Donat. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps hivernal pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un froid de plus en plus vif va gagner toute la moitié nord du pays, au moins jusqu'à jeudi prochain, avec des nuits glaciales de 0 à moins 4 degrés ce lundi matin, du nord de la Loire à la frontière allemande, mais souvent entre moins 3 et moins 7 degrés à l'abri du vent par la suite. Sur toutes ces régions, on dépassera difficilement 0 degré en journée. Dans la moitié sud, les valeurs nocturnes et diurnes seront plus élevées et franchement plus douces sur les régions méridionales. Ce lundi, sur toute la moitié nord du pays, en raison des fortes gelées, il faudra se méfier des sols glissants avec en prime des flocons par intermittence en journée. Dans le quart sud-ouest, de nouvelles pluies modérées sont attendues entre l'Aquitaine, les Pyrénées et le Massif central, également sur la Corse, où le vent sera très turbulent sur les caps et les crêtes. Du golfe du Lion à la vallée du Rhône et des Alpes à la Provence, le ciel sera variablement nuageux avec des flocons sur les Alpes, neige plus forte au-dessus de 1200 mètres sur le Cantal, le Limousin et la partie ouest de la chaîne des Pyrénées.
Jean-Michel Golinski de Météo France.